Ok. Donc on a commencé, je recommence depuis le début de la Mishnah, puisqu'on a, on a déjà tout le début de la Mishnah, donc je relis rapidement. On s'est arrêté en plein milieu. Aïcha Niknet Béchalosh Drachim. Donc une femme peut se faire acquérir, littéralement ça que ça veut dire, Béchalosh Drachim, par trois manières. Vekona et Atma Bishti Drachim, et elle peut s'acquérir elle-même Bishti Drachim dans deux manières. Donc on explique tout de suite. Niknet, Bekesef, Bishtar ou Bevia.
Acheter.
Une femme peut se faire acquérir. C'est-à-dire qu'un homme, c'est acquérir. Une femme peut se faire acquérir, Bekesef, avec de l'argent, Bishtar, avec un contrat, ou Bevia, et avec des relations. Donc je rappelle ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. J'ai expliqué qu'on parle des, on parle des Kiddushin. On parle des Kiddushin. D'accord? Kiddushin ici, qu'est-ce que ça veut dire? Kiddushin, ça ne veut pas dire le mariage comme on a aujourd'hui, mais Kiddushin, c'est un petit peu un genre de fiançailles, mais un fiançailles que pour se délier de ce fiançailles, il fallait un guet, il fallait un acte de divorce. Ça, c'est Kiddushin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour être Mekadesh une femme, pour faire Kiddushin à une femme, donc aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on fait tout sous la choupa. Mais à l'époque, pour faire Kiddushin à une femme, on avait trois méthodes. Ou bien avec de l'argent. De l'argent, c'est ce qu'on a expliqué. Ou bien avec un contrat. Ou bien avec Bia. Ça veut dire, Bia, ça veut dire en ayant des relations avec la femme.
Si
trois méthodes.
De cette méthode est utilisée malgré par erreur ou volontairement, c'est reconnu?
C'est une autre question. C'est une autre question, si ça dépend de la Kavana. D'accord. Ensuite, on continue la Mishnah. Bekesef, quand on parle d'argent. D'accord. Bekesef, quand on parle d'argent. Donc on a dit qu'une des trois méthodes, c'est avec de l'argent. Alors, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent que quand on parle d'argent, de quoi on parle? Bedinar ou Veshavé Dinar. Il faut donner minimum, ou bien un dinar, ou bien quelque chose qui vaut un dinar. Alors c'est quoi le dinar? Le dinar, non, c'est beaucoup plus que la prouta.
Oui.
Le dinar c'est un quart, le quart du Sela. On va expliquer tout ce que ça veut dire. C'est une somme qui est, bon, le quart du Sela, on va dire aujourd'hui, ça aurait été l'équivalent, je sais pas, près de, entre 10 et 15 euros. Pas grand chose, mais c'est déjà ça. Vous allez voir que le Bet Hillel va dire c'est encore moins que ça. Ou Bet Hillel disent, bi prouta, ou Béchavé Frouta. Bet Hillel disent non, c'est pas un dinar, ou bien ce qui vaut un dinar, ou l'équivalent d'un dinar, c'est une prouta, ou l'équivalent d'une prouta. Vekamaï prouta, combien c'est la prouta? Echad Mishmoné, Beissar à Italki. Donc le Issar, c'est une pièce qui venait d'Italie. D'accord? Le Issar, c'est 1/24 du dinar. D'accord? Donc si la prouta, c'est 1/8 du Issar, ça veut dire que la prouta, c'est 1/192 du dinar. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est pas des pièces qu'on connaît aujourd'hui.
C'est pas le système décimal, mais
le système, c'est, de toute façon, on n'utilise pas ce système aujourd'hui. Aujourd'hui, la prouta, on la calcule par rapport au poids de l'argent. D'accord? Et aujourd'hui, c'est estimé à 15 centimes d'euros. À l'époque, c'était 1 franc. C'est aux alentours de 15 centimes d'euros. C'est ça, la prouta. Un peu plus, un peu moins, ça dépend de la valeur de l'argent. Ça peut être 13 centimes, ça peut être 17 centimes, mais ça tourne autour de 15 centimes d'euros.
En vérité, c'est un volume de monnaie, mais il y avait un pouvoir d'achat avec.
C'est un volume de... Non, c'est les Khamim ont fixé. Alors, si vous posez une bonne question, d'où les Khamim ont sorti cette mesure-là? Est-ce que c'est par rapport à un pouvoir d'achat? Pas du tout. C'est pas par rapport à un pouvoir d'achat. La Gemara va expliquer qu'on a appris ça dans Pasouk. D'où on sait que c'est une prouta. C'est pas par rapport à un pouvoir d'achat.
Parce que de la Torah?
Oui, c'est de la Torah qu'il faut qu'on a. Et c'est pour ça qu'il y a une marque entre Bet Hillel et Bet Shammai. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, qu'avec 15 centimes d'euros, on n'a pas un pouvoir d'achat, on fait rien avec 15 centimes d'euros. D'accord? On n'achète même pas une baguette de pain.
C'est clair.
D'accord? Une baguette de pain, on va dire, c'est un seuil quand même qui est.
Avant, on pouvait avec 15
centimes. C'est même pas un quart de baguette.
C'est rien. 15 centimes d'euros, c'est rien. Ben, c'est quand même bon.
Un quart de baguette.
C'est quand même bon. C'est-à-dire que si quelqu'un, il prend 15 centimes d'euros, il prend 20 centimes d'euros, et il donne à une femme, il lui dit, voilà, avec ces 20 centimes d'euros-là, arrête mes coups de chétis. Selon la Torah, les kiddushin sont bons.
Il met un casque à prendre des.
D'accord.
C'est quoi cette notion d'argent pour le mariage?
La notion d'argent pour le mariage, c'est une bonne question. Ça, on l'avait dit la semaine dernière. On avait dit que on fait une gzera shava dans la Gemara du champ de Ephron. Vous savez, quand Ephron a vendu son champ à Avraham, pour qu'Avraham puisse y enterrer Sarah. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est écrit Natati Kesef Asade Karmimeni. Là-bas, Avraham, il dit, d'accord, j'ai donné l'argent du champ, d'accord, donc Karmimeni, non pardon, c'est Ephron qui dit Natati Kesef Asade Karmimeni. D'accord ? J'ai donné l'argent du champ, ça veut dire Ephron dit, j'ai pris l'argent que tu m'as donné et je l'ai donné à qui de droit ? Kach mimeni, prends le terrain de moi. Donc de là, qu'est-ce qu'on prend ? C'est ce qu'on voit d'ici. On voit d'ici que quand une personne parle de kicha, de prendre un terrain, c'est à côté, c'est avec de l'argent.
Transaction.
Transaction. Donc il y a le terme kach, prendre. Dans les kiddushin, on retrouve aussi le terme kach, parce que c'est écrit ki kach ish isha. Quand un homme va prendre une femme. Donc de là, les Chachamim ont appliqué le principe de la Gzera Shava, et ils ont dit que de la même manière que chez Ephron, ça s'est passé avec de l'argent, donc pareil, une des méthodes, comment ça peut se passer dans le Kiddushin, ça peut être aussi avec de l'argent. Bien entendu, il y a encore d'autres psukim pour apprendre les autres méthodes. Alors, le Shtar, c'est également, il y a un autre pasuk aussi, on l'avait dit la semaine dernière, on avait dit parce que d'où on sait pour le Shtar, qu'on peut faire avec un contrat, parce que on dit Veyatza, Veaita Leishacher, que quand une femme, quand on va divorcer une femme, on va lui écrire un get, et avec ce get-là, elle pourra sortir et aller chez un autre homme. Et de là, les Chachamim ont dit, il faut comparer la sortie et la rentrée. De la même manière que pour sortir, on peut le faire avec un, on doit le faire avec un shtar. De la même manière que pour rentrer, on doit le faire aussi avec un shtar. On doit le faire aussi avec un contrat. Seulement, puisqu'on a d'autres versets, on comprend qu'on n'est pas obligé de le faire avec un contrat, on peut le faire aussi avec de l'argent. Et en ce qui concerne Bia, ce qui concerne les relations, ça s'écrit clairement dans la Torah. Qui est kar ish isha ou beala. Quand un homme prendra une femme, ou beala, il aura des relations. Ou bien là, c'est-à-dire qu'il aura des relations avec elle. Comme donc Bet Shammai Umri, Bet Dinar ou Bet Shavedi. Ok, donc ça on explique. Donc ça c'est les trois méthodes. Ça c'est les trois méthodes. Excusez-moi, je finis la Mishnah. Ça c'est les trois méthodes. Ça c'est les trois méthodes. Comment on peut un homme peut acquérir une femme. Encore une fois, je répète ce qu'il a dit le Ran, ce qu'on a dit au nom du Ran la semaine dernière. Quand on parle d'acquisition, c'est pas Chas V'Shalom qu'on acquiert sa femme. C'est uniquement. Ça veut dire que la même manière que quand j'acquéris, par exemple, cette Mishnah que j'ai dans la main. Quand je l'acquéris, si quelqu'un veut me l'enlever de la main, il va falloir qu'il me prouve qu'il peut l'enlever de la main. C'est-à-dire qu'il va falloir un contrat, il va falloir des choses. De la même manière, quand on dit qu'on acquérit sa femme, ça c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant la femme m'appartient, et que si cette femme voudra aller chez quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre voudra la prendre, il faudra quelque chose se passe. Il faudra un acte de divorce, etc. C'est ça le concept de conner, le concept d'acquérir une femme. Donc, on a dit trois méthodes pour acquérir la femme, pour la première étape du mariage, des kiddushin. Donc aujourd'hui on le fait sous la roupa, hein, juste avec la bague déjà, on le fait. Et Vekona et Tatma, et on a deux méthodes comment la femme peut s'acquérir à elle-même, c'est-à-dire peut reprendre entre guillemets, peut reprendre sa propriété. Hein, on a l'impression que l'Avdil qu'on parle d'un esclave, mais bon, c'est parce que c'est ça. Reprendre sa propriété, c'est-à-dire que maintenant elle peut se marier après avec qui elle veut.
Si le mari lui
demande. Vekona et Tatma. Alors comment ? Alors deux méthodes. Première méthode, c'est Beget, c'est avec un get. Avec un acte de divorce, là c'est écrit clairement. C'est écrit Vekatavla Sefer Kritut, comme dit le verset, il lui écrira Sefer Kritut, un livre de séparation. Livre de séparation, c'est un divorce. Bien entendu. Voilà. Donc Beget avec l'acte de divorce, ou Bemitat Abaal, et avec la mort du mari. Également, c'est la même chose si le mari meurt. Donc pareil, dès que son mari meurt, la femme reprend sa propriété. Il n'y a pas besoin de quelque chose d'autre qui se passe. Donc, si le mari est vivant, il faut que le mari donne un guet. Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'étudier la Maseret Gittin qui est au début de ce livre-là, pour expliquer comment on donne le guet. C'est pas le sujet. D'accord ? Donc, ou bien par le guet, c'est-à-dire si le mari est vivant, il faut un acte, il faut donner un guet. Et si le mari est décédé, il n'y a pas besoin d'acte, c'est automatiquement la femme est divorcée. Enfin, elle est divorcée, elle est séparée de son mari. Il n'y a pas besoin que les enfants approuvent ou que le Beit Din approuve ou quoi que ce soit. Ça c'est Vekona et Tatma, Beget ou Tatabal. Ayevama. Tout ça c'est valable. Ce que je viens de dire, c'est que quand la femme s'acquiert à elle-même quand son mari est mort, c'est si son mari est niftar quand ils avaient déjà des enfants. Là, dans ce cas-là, il ne rentre pas dans le statut de Yevama. Yevama c'est quoi? Yevama c'est une femme que son mari est mort sans laisser des enfants. Et que son mari avait un frère, d'accord, qui est ou pas encore marié. D'accord? Qui peut, c'est-à-dire qui pourrait se marier avec cette femme. Donc là, on rentre dans le principe de hibou. Là, dans ce cas-là, cette femme-là, si son mari meurt, elle n'a toujours pas repris sa propriété. Pourquoi ? Parce que automatiquement, dès que son mari est mort, elle est réservée pour le frère de son mari. Tout de suite.
Ça fait.
Enfin, donc c'est pour ça qu'on nous dit Ayevama, s'il s'agit d'une Yevama, Niknet Bevia. La Yevama, elle, la seule manière comment le frère du mari peut, entre guillemets, acquérir cette femme. Il n'y a plus les trois méthodes comme avant, il y a une seule méthode, c'est Bia, avec des relations. La seule méthode. Parce que ça, c'est la méthode que la Torah dit. Et on n'a pas les mêmes psukim, comme j'ai dit avant, pour apprendre qu'on pourrait utiliser d'autres méthodes. La seule méthode, comment le yabam, le frère, on l'appelle le yabam, ça veut dire le frère du défunt, peut accepter le mariage, c'est quand ils vont s'isoler et ils vont avoir bia, il y aura une relation. Tant qu'il n'y a pas eu de relation, le mariage n'est pas bon. Il faut une relation. D'accord ? Il faut une relation, ça veut dire il faut aller jusqu'au bout.
Il n'y a pas d'officialisation par
de quoi
un star
pas besoin, non, pas besoin. Yvama n'a pas besoin. Parce qu'en vérité, c'est une continuité du mariage précédent.
Et les biens, alors, du frère décédé?
Tout repasse au frère. Le frère remplace le mari. Sans star, sans rien. Bia. D'accord? Parce que, encore une fois, c'est la suite du mariage.
À condition qu'il accepte.
Vekona, bien entendu. Vekona est Atma. Et la femme peut s'acquérir, ça veut dire elle peut reprendre sa propriété. Donc encore une fois, je parle d'une femme que son mari est décédé, mais que son mari avait un frère qui peut se marier avec elle. Alors, comment la femme pourrait reprendre sa propriété? Deux méthodes. Ou bien Bachalitza, ou bien si le frère ne veut pas se marier avec elle. Donc là, dans ce cas-là, on va appliquer la procédure de Khalitza. Khalitza, donc c'est une procédure très spéciale, hein, jeter une chaussure, etc. Bon, il y a tout un truc, mais quoi qu'il en soit, dès qu'on fait la Khalitza, c'est à ce moment-là que la femme reprend sa propriété. C'est-à-dire que depuis que son mari était mort jusqu'à maintenant, elle était suspendue. Eh bien, elle devait attendre, elle s'appartenait pas à elle-même. Mais une fois que le beau-frère fait la Khalitza, c'est bon, elle est devenue libre. Ça, c'est la première méthode. Ou bien Mitata Yabam. Deuxième méthode, c'est quoi? C'est Mitata Yabam. Quand le Yabam, ça veut dire donc le beau-frère, d'accord, s'il meurt et qu'il n'y en a pas d'autre. Il avait un seul frère, et pas qu'entre temps, il entend que son frère est mort, lui aussi il fait une crise cardiaque, Dieu préserve. D'accord? Mitata Yabam, bah oui, c'est des cas, il faut en parler. Dans ce cas-là, Mitata Yabam, si le Yabam est mort, là aussi pareil, la femme n'a pas besoin d'avoir un acte, je sais pas, ou un acte du Beddin qui certifie
qu'elle
a rien besoin de tout ça. Oui, mais ça veut dire, on aurait pu penser que de la même manière que du vivant du mari, il fallait un acte, on aurait pu penser que quand le mari meurt, alors au moins il y a besoin que le Beddin certifie. Il certifie par quelque chose, je sais pas moi, mais c'est comme aujourd'hui, j'aurais dit, je sais pas moi, t'as besoin d'aller à la mairie, et que la mairie écrive ça sur papier, on donne un certificat comme quoi ton mari est mort. Dans la Torah, il n'y a pas besoin de tout ça. Pas besoin. Le mari est mort, automatiquement, la femme, elle est libre. Sans aucune autre condition. Alors, donc ça c'est la Mishnah Aleph. Mishnah Aleph, donc on a appris, c'est une introduction importante pour entrer dans la Maseret Kiddushin. Puisqu'on a parlé d'acquisition, on va parler dans les deux Mishnayot suivantes, on va parler de quelque chose qui a priori aucun rapport avec le mariage. On va parler et c'est intéressant parce que c'est vraiment à la suite de la parasha Mishpatim qu'on a étudié la semaine dernière. Le cas du Eved Ivri. On a étudié le cas du Eved Ivri, ça veut dire l'esclave, le serviteur juif. Donc encore une fois, quel rapport avec la Maseret Kiddushin? A priori pas de grand rapport. Le seul rapport, c'est que puisqu'on vient de parler d'acquisition, donc bon, la Mishnah va parler aussi d'autres méthodes d'acquisition qui concernent le Eved Ivri. D'accord? Alors, on a, avant de commencer, une introduction importante. Il faut savoir que on a trois types de Eved Ivri. Après, dans la Mishnah suivante, on parlera du Eved Knani. Le Eved Knani, c'est le serviteur, l'esclave goy, non juif. Cananéen. On expliquera aussi pourquoi d'où vient ce terme cananéen. C'est quoi ça, cananéen? Ça, on verra dans la Mishnah Guimel. On est dans la Mishnah Bet, on commence à parler par des juifs. Eved Ivri, un esclave juif. Trois méthodes. Enfin, première méthode, c'est Moher Atmo Mechamat Dochako. C'est une personne qui se vend, pourquoi? Mechamat Dochako, parce qu'il n'a pas les moyens. Une personne, Dieu préserve, qui voit qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. D'accord? Donc, il va proposer ses services à quelqu'un, il va dire, écoute, est-ce que tu veux que je m'occupe de ta maison? Je suis esclave. Comme il dit le verset dans Vaïkra, V'chi yamour achicha imar venim karlar. Quand Dieu préserve, ton frère, yamour, ça veut dire qu'il va se rabaisser et tellement il n'aura pas d'argent qu'il va se vendre.
C'est ce qu'ils ont fait, les serviteurs auprès de Yosef.
Semaine dernière. Donc ça c'est première catégorie de Eved Ivri. Pourquoi il est esclave? Parce que en fait, c'est pas de cet esclave qu'on parle dans la paracha de cette semaine. Hein. Le type d'esclave que je viens de vous dire, on parle dans la paracha Vaïkra. Il est esclave parce que c'est de soi-même il s'est vendu, de lui-même il s'est vendu, parce qu'il n'avait pas les moyens, il n'arrivait pas à joindre les deux. Deuxième catégorie d'esclave, c'est quoi? C'est une personne qui va se vendre, il va se vendre toujours, à cause qu'il n'a pas les moyens, mais là il ne se vend pas à un juif, il se vend à un goy. La deuxième catégorie. La même chose que le premier cas, sauf que dans mon premier cas, il s'est vendu à un juif. Et dans le deuxième cas, au lieu de se vendre à un juif, il se vend à un goy. Ça, c'est le deuxième cas. Grave. Troisième cas.
Lequel goy? Le goy Toshav ou...
A priori, c'est Guer Toshav, oui. Bon, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut un Guer Toshav ou ça peut être n'importe quel goy? A priori, c'est un Guer Toshav. Parce que le verset, il dit « Chitasi Giat Guer Toshav Imar ».
C'est là-bas, donc.
Troisième catégorie, ça c'était celle qu'on a étudiée dans la paracha la semaine dernière, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a volé, tu préserves, et qu'il a déjà dépensé l'argent qu'il a volé, et il n'a pas de quoi rembourser.
Oui.
Et personne, sa famille, personne ne peut l'aider. Donc il faut payer. Qu'est-ce qu'il fait le Bet Din? Le Bet Din lui dit, im en lo venimkar bignevato. Si il n'a pas de quoi rembourser, on devra le vendre pour qu'il rembourse bignevato son vol. Et c'est sur ça qu'on a appris dans la paracha la semaine dernière, Kitikne Evadivri, lorsque tu achèteras un Evadivri, lorsque tu acquériras un Evadivri, Sheshani Miavod, pendant 6 ans, 6 années, il devra travailler. C'est ce Evadivri qui devra travailler 6 ans. Les autres, non, les autres, c'est à vie. Alors, quelqu'un se vend à un juif, parce qu'il n'a pas les moyens, c'est pas la même chose, c'est pas 6 ans. C'est beaucoup plus de temps. Ça dépendra du contrat. Ça, c'est déjà un premier point, qui est important. D'accord ? Et là, dans notre Mishnah va expliquer les différences qu'il y a. D'accord ? On va expliquer les différences qu'il y a entre les différents types de Eved. Comment il s'acquiert, d'accord ? Et comment il peut se faire acquérir par une autre personne, et comment il reprend sa propriété. Vous allez voir que c'est pas la même chose. Ça va changer. Ça va changer à chaque fois par rapport à la manière comment l'esclave est devenu esclave. Est-ce qu'il s'est vendu à un juif, à un goy, donc deux catégories déjà, ou bien est-ce que c'est le bedin qui l'a vendu parce qu'il n'avait pas de quoi rembourser. Et par rapport à tout ça, vous allez voir que les halakhot vont changer. D'accord ? Vous avez une question ?
Oui. Dans le cas du ganav, comme tu as dit, du voleur, si, disons, ce qu'il a volé après 2 ans ou 3 ans de servitude,
ouais.
Il s'est considéré qu'il a remboursé. Qu'est-ce qui se passe les 3 autres années, puisqu'il est tenu à rester...
Comment il a remboursé?
Non, disons que la valeur du travail qu'il a fourni correspond aux deux...
Ah, normalement, il n'y a pas... Normalement, c'est 6 ans.
Donc, alors, il est pénalisé, ouais. Quoi qu'il en soit.
D'accord. Quel que soit ce qu'il a volé, s'il avait volé pour des millions, il a fait une bonne affaire. S'il a volé 3 ans, c'est une arnaque.
Le Bet Din peut décider depuis le début que...
Une durée.
D'accord. C'est pas obligé de 6 ans. 6 ans, c'est la limite.
Ah, c'est la limite. D'accord.
6 ans, c'est-à-dire si on est au début, d'accord. En plus de
moi, la chose. Et en général, le Bet Din ne vend pas. Ferme, le Bet Din ne vend pas en tant qu'esclave. S'il n'y a pas une grosse somme, quoi. On va dire, tu vas faire des travaux, on va dire.
Un intérêt.
Voilà.
Ouais. Et ça a été fait très rarement, d'ailleurs, en plus. Hein. Le Bet Din l'a fait très rarement.
Donc, la Mishnah Bet.
Sur les pas de prison.
Mishnah Bet. Evad Ivri, Nikne Bekesef. Alors c'est... Tiens, tu avances ici, là. Ah, là, t'es dans Gittin. Tu avances un peu plus loin. Kiddushin.
Page 2. Page 2.
Voilà.
Ah, d'accord.
Donc, Evad Ivri, Nikne Bekesef. L'esclave juif, Nikne, il peut se faire acquérir Bekesef par 2 méthodes. Ou bien par de l'argent. D'accord ? Par de l'argent, ça veut dire quoi ? Ça, c'est intéressant, ça, par de l'argent. Un esclave juif, il faut une méthode d'acquisition. Imaginons que quelqu'un n'a pas de quoi. Monsieur Reuven, il n'arrive plus à joindre le debout. Donc il va aller chez Monsieur Shimon, il va lui dire, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me prendre, je vous à la maison. Il faut une méthode d'acquisition. C'est pas simplement que ça se passe pas comme ça, il faut une méthode d'acquisition. Quelle méthode d'acquisition on peut avoir? Première méthode, c'est de l'argent. Intéressant. Ça veut dire que Shimon va payer Reuven. Il va dire, tu deviens mon esclave, et pour que tu deviennes mon esclave, je te paye. Il va lui donner une somme, mais on a un problème. Pourquoi? C'est que tout argent que le serviteur gagne reviendra au propriétaire. Alors comment ça se passe? Cet argent-là est hors du compte. On est bien d'accord?
D'accord.
Cet argent-là, on le met dans un compte. Il dit voilà.
L'épouse alors?
Il dit bon, je le mets de côté. Par exemple, on peut faire un contrat. Quand Reuven dit à Shimon, voilà, je me vends en tant qu'esclave pour 10 ans. Ou pour 5 ans. Ça? 5 ans. Très bien. Donc ils mettent le contrat 5 ans. On lui dit, on met de l'argent. Combien tu veux? Je veux 50 000 euros. 50 000 euros. 50 000 euros, on les met dans un compte. Ils sont bloqués. Ou bien on les met au Bet Din. Ça peut être géré par le Bet Din. Et c'est la méthode d'acquisition. Par ces 50 000 euros, c'est cher quand même, hein. Il a été acquéri.
Pas, ça fait 10 000 euros par an.
Si c'est un bon travailleur, c'est pas cher.
Exactement. Et c'est 24 heures semaine.
Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais si c'est un bon travailleur, il aurait trouvé du boulot.
Il faut le loger, le nourrir.
Hein, si c'est un bon travailleur, il aurait pu trouver du boulot.
Exact.
Donc, Nikne Bekesef, Il peut être acquéré ou bien par de l'argent.
Tu lui pètes une dent, tu l'as paumé.
Ça fait cher la dent.
Mais qu'est-ce que c'est ? On va le voir, on va aller juste après. Donc ou bien avec de l'argent, ou bien bichtar. Ou bien bichtar, c'est avec un contrat. Alors, juste un petit détail important, d'accord, un petit détail qui a son importance par rapport au Kesef, par rapport à l'argent, c'est valable également quand une personne a volé, qui n'avait pas de quoi rembourser, que qui c'est qui va le vendre dans ce cas-là ? C'est le Bedin. Le Bedin va le vendre. Donc pareil, le Bedin va le vendre, le Bedin ne va pas le vendre forcément à la personne qui a été volée. Il va vendre ses services, il va le vendre à quelqu'un d'autre. Et par l'argent que le Bedin va récupérer, avec cet argent, il va rembourser le vol. Il va rembourser la personne qui a été volée. Donc pareil, c'est Nikne Bekesef. Par quelle méthode le Eved Ivri peut se faire acquérir? Bekesef par de l'argent. Première méthode. Ou Bishtar, ou bien avec un contrat. Ah, ça coûte moins cher. Il peut faire un contrat. Par exemple, il peut dire, voilà, on fait un contrat, tu travailleras demi-journée pour moi, mais tu es esclave, tu es mon esclave. Mais tu vas travailler que demi-journée. En contrepartie, moi je te paye pas. Propriétaire, Shimon dit, moi je te paye pas. Donc on va faire ça avec un contrat. Un contrat, ça coûte pas cher, un contrat. Qu'est-ce qu'il écrit dans le contrat? Dans le contrat, qui c'est qui doit écrire le contrat? C'est le serviteur, l'esclave qui doit écrire le contrat. Donc il dit, je suis vendu à un tel. Signé, Reuven. Areni Maholcha. Donc deux méthodes. Ou bien par de l'argent, c'est-à-dire l'argent qui se fait payer, ou bien Bishtar, avec un contrat.
Ça n'est pas tout clair, forcément.
Pardon?
Ça n'est pas tout clair.
Non, oui. Alors dans ce cas-là, il doit signer. Ou bien bon, on peut avoir une procuration, ça existe la procuration dans la Torah. Hein.
D'accord.
Procuration, ça peut exister. Pareil, il peut y avoir deux édimes, deux témoins qui vont être là, qui vont dire on est témoins qu'il y a eu un consentement.
Ça pas de problème. Étrangement, un mariage.
Et dans ces cas-là, on n'a même pas besoin de
star.
Si c'est, pas besoin de star si tu as les deux témoins.
Si, deux témoins, ils vont écrire sur un star.
Non, par exemple, ils viennent devant le.
Il faut un star, il faut un contrat. Et je vais aller plus loin que ça. Même si c'est le Beit Din qui le vend, le Beit Din aussi a besoin de faire un contrat. Obligé. Il faut un contrat. Ça, on apprend de la Torah. Il faut ou tu payes de l'argent, donc l'argent, le fait qu'il y ait de l'argent en jeu, c'est ça qui est la forme d'acquisition, ou bien un contrat. Même le Beit Din, quand il vend une personne en tant qu'esclave, il faut signer un contrat. Là, dans ce cas-là, c'est plus l'esclave qui signe le contrat, mais c'est le Beit Din.
D'accord.
Le Beit Din qui signe, en vue de ce qui s'est passé, on a vendu un tel en tant qu'esclave. Signé Beit Din. Et il garde une copie, le Beit Din, dans ce cas-là. Donc, Nikne Bekesef ou Bishtar. Deuxième méthode, c'est Bishtar, avec un shtar, avec un contrat. Excusez-moi, j'ai oublié. Troisième méthode, c'était Bachazaka. Troisième méthode, comment il peut se faire acquérir, c'est Bachazaka. C'est quoi Chazaka? Comment il traduit Chazaka? Présomption?
Non.
Comment il traduit Chazaka?
Est acquis par lui-même.
Non. Un esclave hébreu est acquis par de l'argent et par un acte, et il s'acquiert lui-même par des... Il s'acquiert...
Par les années?
Attendez.
Mais il manque quelque chose.
Ah oui, non, pardon. Non, je me dis, non, je ne sais pas trop.
Non, c'est pas la même chose.
C'est la Mishnah Guima que j'ai vue. Je me disais, j'avais vu que deux. Très bien. C'est la Mishnah suivante qu'on verra avec Razaka.
Ah, d'accord.
Donc, Eved Ivri, Nikne Bekesef ou Bishtar. Un Eved Ivri peut se faire acquérir par de l'argent. Là, on parle vraiment d'acquisition. Bekesef, ou avec de l'argent, ou Bishtar, ou avec un contrat. Et, Vekone Atatmo, maintenant, il peut reprendre sa liberté. Alors, par trois méthodes, Bachamim, ou bien avec les années. Alors, encore une fois, ça c'est valable uniquement si le Beit Din l'a vendu. Si le Beit Din l'a vendu, on est limité obligatoirement à 6 ans. D'accord? On est limité à 6 ans. Ça veut dire que quand le Beit Din le vend, on ne peut jamais aller plus que 6 ans. Par contre, si une personne se vend elle-même, là dans ce cas-là, on peut aller plus loin que 6 ans. On peut aller jusqu'à 50 ans même.
D'accord?
49.
Oui,
c'est ça.
Jusqu'à 49.
Jubilé, ouais.
Donc,
oui, 49, ça dépend.
Ça fait 5 ans.
Ça dépend en réalité. C'est pas 49, c'est avant, combien de temps par rapport à l'année du jubilé.
Oui, mais si, c'est donc au maximum 49.
Voilà. Ouais, donc ça peut être 50 parce qu'il peut être vendu pendant l'année du Yovel. Voilà. D'accord. Il peut être vendu pendant l'année du Yovel et il sera libre que le prochain Yovel.
Là, il a pas de chance.
Il la jouera bien, il dira, mais je crois que c'était cette année, moi.
Il a pas de chance. Il a loupé le train d'une minute, il n'en est parti pour 50 ans.
Donc, c'est un contrat, ça, encore une fois. Hein. C'est un contrat que c'est pas à vie, hein, quand on prend. On peut faire un contrat, j'achète un serviteur pour tant et tant d'années. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 2 ans. C'est un nombre qui se détermine dans le contrat. Ou bien au moment où on met l'argent. Donc, le serviteur reprend sa propriété. Il reprend sa liberté. Bachanim, avec les années. C'est-à-dire que dès que les 6 années sont finies, Il n'y a pas besoin de contrat.
Ou si quelqu'un paye sa dette aussi.
C'est pas comme, oui, on va voir. D'accord. C'est pas comme le contrat. C'est pas comme, pardon, la rentrée. Quand pour devenir esclave, il fallait un contrat, il fallait une méthode d'acquisition. De l'argent, il fallait un contrat, il fallait quelque chose. Pour sortir, au bout de 6 ans, il n'y a pas besoin de méthode. D'accord. Il n'y a pas besoin de contrat.
C'est automatique.
Automatique. Pas besoin de guette, pas besoin de rien du tout.
Mais le contrat fait quoi pour le départ de la date?
Pardon?
C'est le contrat qui statue,
oui,
au début de la date.
D'accord.
Donc il y a besoin quand même quelque part.
Oui, mais il n'y a pas besoin de réécrire quelque chose de nouveau.
D'accord.
D'accord.
Ça aurait été amusant que dans les mariages. Écoute, on est marié 9 ans, je te préviens. Hein.
En général, si tu as fait un jubilé, c'est pas mal.
Et tu renouvelais.
Donc,
veux
connaître Atmo, Bachanim, il peut se raquérir. Il peut reprendre sa propriété Bachanim avec les années, ou Bayovel, ou bien avec le
Yovel.
Ou bien avec le Yovel. D'accord. Donc, avec le Yovel, ça, le jubilé, c'est valable pour tout le monde. Que ce soit une personne se vend, ou que ce soit que le Beit Din l'a vendu. Tout pour tout le monde, c'est valable. Dès que le jubilé arrive, tous les esclaves reprennent leur liberté. Donc pareil, c'est automatique. Pas besoin de Beit Din, pas besoin de certificat, ils n'ont pas besoin d'aller à la mairie pour qu'on leur fasse un certificat de liberté. C'est automatique, dehors, il sort, c'est fini. Et troisième méthode, Begir on Kesef. Si le serviteur a eu les moyens entre temps, par exemple, il a quelqu'un de la famille qui veut le racheter. Il dit voilà, vous avez travaillé pendant... Par exemple, le serviteur a volé. Il a volé. Et on lui dit, voilà, il faut travailler pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, on va récupérer à peu près 30 000 euros. Très bien. Il travaille 3 ans. Et au bout de 3 ans, il y a quelqu'un de la famille qui dit, moi, je suis prêt à payer 15 000 euros. D'accord ? Donc 15 000 euros ont déjà été payés. Ça s'appelle Giron Kesef, par l'argent qui reste. Ça peut être valable également s'il a eu un héritage entre-temps. Ça, c'est une marloquette. Parce que normalement, l'héritage devrait repartir au maître. Mais normalement, dans ce cas-là, ça passe pas au maître. S'il a un héritage entre-temps, il a du présage de quelqu'un qui meurt, et qu'il devient l'héritier. Et qu'avec l'héritage, il a de quoi payer. Dans ce cas-là, pareil, Giron Kesef. Giron Kesef, c'est l'argent qui reste. Ça peut être valable aussi dans le cas d'une personne qui s'est vendue soi-même au Beit Din. Il s'est vendu au Beit Din, et entre-temps, il y a la famille qui veut le racheter. Mais lui, il a gagné de l'argent. Alors, comment ça se passe dans ce cas-là? Giron Kesef. Alors là, c'est important. On doit passer par le Beit Din. C'est Maïmonide qui explique comme ça. Il dit que ça ne se fait pas comme ça. Parce que, encore une fois, c'est très difficile à évaluer quelle est la valeur du produit que l'esclave a fourni pendant 3 ans. Peut-être qu'il n'a rien fait pendant 3 ans et que le propriétaire va dire, moi j'ai pris pour 30 000 euros, mais en 3 ans, il n'a pas fourni pour 15 000.
Le mec qui dégage, j'en ai marre de nourrir et il ne fout rien.
D'accord. Donc comment on fait? Qui c'est qui calcule tout ça? Ah oui, il peut dire, écoutez, moi j'ai pas... Et d'un autre côté, l'esclave peut dire, oui, mais j'ai fourni pour 30 000 euros déjà. J'ai travaillé très dur, j'ai fourni pour 30 000 euros.
Donc il y a des concessions.
Donc il y a des négociations à faire. Qui c'est qui fait ces négociations? C'est le Beit Din.
J'ai un bon contact.
C'est obligatoire. Il faut obligatoirement passer par le Beit Din pour passer par cette méthode de Giron Kesef. Calculer combien d'argent reste à payer. Yetera Alav Amayv. Donc on a eu combien de méthodes? On a eu 3 méthodes. D'accord? On a eu les années, le Yovel. Donc les années, ça veut dire les 6 ans ou bien les années qui ont été fixées quand une personne s'est vendue. Le Yovel. Et par le rachat de la tête, exactement. Yetera alav ama ivria. La ama ivria, ça veut dire quand c'est une ama. Quand c'est plus un esclave, mais c'est une servante. Quand c'est une servante. Alors, elle a quelque chose. C'est quoi le cas de la servante? Une servante, c'est que son père l'a vendue quand elle était petite, elle a moins que 12 ans. Son père l'a vendue, d'accord, parce qu'elle n'avait pas les moyens, donc c'était quelque chose qui se faisait. On vendait sa fille. Mais c'était limité jusqu'à 12 ans. 12 ans ou 12 ans et demi. Dès qu'elle arrive à 12 ans, et malheureusement, des fois, on n'avait pas le choix. Des fois, les parents n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Donc, la fille acceptait, ou même si elle n'acceptait pas. D'accord ? Elle allait chez quelqu'un, et c'était comme une femme de ménage.
Ouais.
Donc, je finis avec ça. Yetera à la Vama Ivria, chez Konet Atma Bessimanim. Qu'est-ce qu'elle a de plus, la Vama Ivria ? La servante, c'est que, mis à part les 3 méthodes qu'on a dit d'acquisition, elle a une 4e méthode d'acquisition qui sont les simanim. C'est quoi les simanim? Ça veut dire que elle reprend sa liberté à partir de 12 ans, mais uniquement si elle a les signes de puberté. Si, tant qu'elle n'a pas les signes de puberté, elle ne reprend pas sa liberté. C'est comme ça, c'est la halakha. Donc, elle aussi, elle reprend sa liberté quand elle aura ses signes de puberté. En général, c'est à 12 ans et demi. D'accord? Bon, après, ça change avec les générations, c'est des choses qui changent, mais dès qu'elle prend les signes de puberté, après 12 ans, elle reprend sa liberté.
Dès qu'elle devient une jeune fille. Voilà.
Voilà. Anirta, nikne birtia, ve konet atmo bayovel, ve mitata adon. Maintenant, je finis avec ça. Anirta. On parle maintenant d'un esclave qui s'est fait vendre par le Beit Din. Donc, combien de temps il doit travailler, on a dit 6 ans. Maintenant, si cet esclave-là, au bout de 6 ans, il dit à Aftiet Adonis, qu'on a pris dans la parasha la semaine dernière, il dit j'aime mon maître, je veux rester chez mon maître. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? On lui fait là.
Le trou dans l'oreille.
On lui fait le trou dans l'oreille. Alors, comment il reprend en lui sa propriété, ce nirsa? Parce que normalement, la Torah dit, il va à Vado Léolam. Une fois qu'il a pris sa boucle d'oreille, comme vous dites, c'est à vie. Il devient esclave à vie. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le nirsa, nikne birtia, sa méthode d'acquisition, après 6 ans, la seule méthode d'acquisition, c'est par retia, c'est par ce coup-là que son maître va mettre sur son oreille. C'est la seule méthode d'acquisition, ni contrat, ni argent. Seule méthode d'acquisition, c'est ce coup de marteau. Et connaître ce mot, et comment il reprend sa propriété? Par deux méthodes. Par Yovel, ou bien par Yovel. C'est quoi Yovel? Yovel, c'est le jubilé, pareil. Et deuxième méthode, ce qui n'est pas écrit explicitement dans la paracha, ou Vemitat Adon, quand son maître meurt. Et là, c'est intéressant, parce que on aurait pu penser que l'acquisition, ça on verra après, là, si tu casses une dent. On aurait pu penser que l'acquisition peut se faire uniquement... Pardon, on aurait pu penser que si l'esclave appartient au père, appartient à une personne, donc s'il meurt, ben ça appartiendra à ses enfants, c'est à vie. Alors on te dit non. Un esclave juif, attention, pas un goy, un esclave juif qui a décidé de soi-même de vouloir rester chez son maître, donc on lui a fait marcea, on a mis le coup dans l'oreille, il a deux méthodes comment il peut s'en sortir. Ou bien, on a dit, ou bien le Yovel. Deuxième méthode, c'est si son maître meurt. Quand son maître meurt, là dans ce cas-là, c'est écrit, la Gemara apprend, on a un verset qui apprend que va vado leolam, qu'est-ce qu'on a dit? Va vado leolam. Il le servira à vie. C'est-à-dire, lui, ce maître, il le servira, mais pas ses enfants. Bon, ça veut dire que même... Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus que ça. Ça veut dire que ce maître-là ne peut même pas le vendre. Si le maître, il a... Ouais. Il peut même pas le vendre, parce que là, on te dit, va vado leolam. Il le servira à vie. Ah, tu veux le vendre à quelqu'un, tu veux qu'il passe tes enfants, ça marche pas. Il faut lui demander, est-ce qu'il veut pas. On verra après, comme a dit M. Bispu, il y a encore une autre méthode, qui est si le maître a fait une faute grave, ça, par exemple, il a crevé un œil ou quoi que ce soit, d'accord, ou tu préserves, là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur reprend sa liberté. Voilà, ça va être pour aujourd'hui.